Nous sommes ce que nous mangeons. Si comme nous, vous pensez que notre alimentation peut changer le monde, vous êtes au bon endroit. Je suis Fanny Giansetto, cofondatrice et présidente d'Écotable. Écotable s'est donné pour mission d'accompagner le secteur de la restauration dans sa transition écologique en permettant aux restaurateurs de mesurer leur impact environnemental, de se former aux enjeux écologiques et de valoriser leur travail auprès du grand public. Dans ce podcast, j'explore les enjeux sociétaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Je donne la parole à des experts, mais aussi à celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, qu'ils soient restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs ou militants. La transition écologique ne se fera qu'avec le plus grand nombre. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à ce podcast, le noter et nous laisser un commentaire, suivre Écotable sur les réseaux sociaux, mais surtout venir manger dans les restaurants Écotable. Bonne écoute! Avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de notre nouvelle plateforme de restauration durable dénommée Impact. Cela fait 6 mois que nous travaillons d'arrache-pied, avec comme objectif de créer un outil numérique accessible et utile au plus grand nombre de restaurants. Pour être brève, sur cette plateforme, un restaurateur peut mesurer son impact environnemental et le piloter. Ensuite, nous lui donnons 2 ressources pour gagner du temps. Un annuaire de prestataires engagés et de nombreux articles pour comprendre pourquoi et comment adopter une démarche écologique. Avec cette plateforme, nous espérons faciliter une reprise rentable, mais aussi durable pour tous les types de restaurants. Alors si vous êtes restaurateur ou restauratrice, que vous voulez aller plus loin dans la transition écologique, rendez-vous sur impact.écotable.fr. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Militants de l'Assiette. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabrina Miché. J'ai rencontré Sabrina par le biais de notre annuaire de prestataires que l'on met à disposition de chacun de nos restaurateurs afin de faciliter leur démarche éco-responsable. Sabrina est venue me rencontrer car elle a créé Ramen Tedrèche. Ramen Tedrèche est né à la suite d'un constat. Les drèches, résidus solides de l'orge après la fabrication de bière, sont souvent considérées comme des déchets pour les brasseries, alors qu'elles sont parfaitement consommables et très nutritives. Sabrina les a donc transformées dans sa cuisine et a mis au point toutes sortes de nouilles délicieuses que peuvent notamment valoriser les restaurateurs. En la rencontrant, j'ai découvert une femme au parcours original et passionnant. J'ai donc souhaité lui donner la parole aujourd'hui. Bonjour Sabrina.
Salut Fanny.
Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ?
Oui, alors j'ai fondé Ramen Tedrèche il y a à peu près 3 ans de ça. Et généralement, quand on me pose la question de ce que je fais dans la vie, je dis que je fais des nouilles.
C'est bien.
Et je trouve ça assez rigolo. Alors, soit ça intrigue les gens et en effet, ils me croient pas, ils me disent des nouilles, comment ça? Soit ils passent à autre chose. Et généralement, quand ils me posent la question, moi, je dis oui, bien sûr, je fais des nouilles, mais en fait, je fais un peu plus que ça. Je fais du recyclage de coproduits alimentaires.
Ok. Et alors, comment est arrivée cette idée de Ramen Tedrèche?
Alors c'est venu de ma passion pour mon amateurisme en bière artisanale en fait.
Ah ouais,
voilà.
C'est venu de la bière.
Il faut déjà bien aimer la bière. Et en fait j'ai découvert justement lors d'une journée porte ouverte chez un brasseur voisin ces céréales générées en très grande quantité et qui par ailleurs avaient encore un apport nutritionnel hyper intéressant. Riche en fibres et en protéines. Et là, je me suis dit qu'il y avait comme une forme de gâchis, en fait, quelque chose qu'il fallait faire avec, notamment dans l'alimentation humaine. À côté de ça,
parce que les drèches étaient avant, en tout cas, utilisées essentiellement pour l'alimentation animale, c'est ça ?
Oui, c'est ça, justement, grâce à leur apport nutritionnel. Mais il y a de plus en plus de microbrasseries urbaines. Et en fait, les brasseurs génèrent des tonnes et des tonnes de drèches. C'est très volumineux et ils ont besoin de les évacuer au fur et à mesure. Et en milieu urbain, l'accès à l'agriculture, l'accès aux éleveurs est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe. Il y a une logistique à mettre en place et donc c'est moins facile justement de les donner au bétail. Et en alimentation humaine, c'est complètement en marge.
Et ça ressemble à quoi les drèches ?
Les drèches, c'est en sortie de cuve, ils appellent ça le gâteau. C'est une espèce de gros amas de céréales humides. En fait, ça provient du malt d'orge. Donc, c'est vraiment une céréale qui a été concassée dans un premier temps et plongée dans l'eau chaude pendant une heure environ à 70 degrés pour libérer les sucres fermentés cibles. Mmh. Et le brasseur, lui, va garder cette eau sucrée qui deviendra de la bière et il va rester cette grosse quantité de céréales.
Donc, qui est en plus, il utilise cette céréale vraiment pas pendant très longtemps.
Non, finalement, tu as complètement raison. Ça dure une heure à peu près.
Et alors, est-ce que c'est le brasseur que tu rencontres qui soulève cette question des drèches ou c'est toi, en voyant ce gâteau, se dit c'est incroyable ça pourquoi on n'en fait rien pour les humains ?
Et non, finalement, il ne soulève pas forcément la question.
D'accord.
En réalité, le brasseur avait fait un petit table avec des cookies à base de drèche, la recette de cookies et un petit sachet de drèche à emporter chez toi. Mais voilà, c'était juste pour illustrer ce qui se passait dans la brasserie, au même titre qu'il y avait un plan de houblon à récupérer pour chez toi. Et en fait, c'est en voyant cette céréale, ce coproduit assimilé à un déchet, transformé dans un cookie, vraiment en alimentation humaine, que je me suis posé la question. Et là, je lui ai demandé qu'est-ce qu'ils en faisaient, les volumes qui étaient générés et pourquoi, comment ça se fait qu'on n'en mangeait pas, nous, finalement.
Parce que lui en mangeait d'une certaine façon, puisqu'il faisait quand même des cookies.
Alors, il l'avait fait juste pour l'occasion, en fait.
Ah oui, d'accord, okay, intéressant. Et alors, qu'est-ce qui te marque, toi, au départ ? Est-ce que c'est le fait ? Est-ce que c'est le gâchis ? Est-ce que t'as un penchant pour l'anti-gaspillage ?
Ah, j'ai clairement un penchant pour l'anti-gaspillage. Mais il y a les déchets qu'on peut réutiliser qui ont encore une valeur ajoutée à donner. Et là, clairement, on a ces apports nutritionnels qui sont pour moi un peu gâchés dans l'alimentation humaine, en tout cas pour l'humain.
Et alors, raconte-moi comment se fait le déclic, comment on passe de « je vois des drèches et je me dis on peut en faire des choses pour les humains » à « ramène tes drèches ».
Ben en fait, moi, j'étais chargée de communication dans des grands groupes, en fait. Et j'ai eu besoin de trouver du sens et je suis partie. Et en fait, je suis
avant
partie...
Avant ça ou en même temps ?
Ben non, avant ça, en fait.
D'accord.
Avant ça, et je suis partie voyager. Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, clairement. Mais je savais que j'aimais voyager, j'aimais faire des treks, etc. Donc, j'ai fait des treks dans l'Himalaya. J'ai mangé beaucoup de nouilles instantanées pendant ces treks. Très pratique, mais très mauvaise qualité, franchement. En même temps, j'ai même découvert les ramen, le plat japonais, hein, puisque les ramen, c'est un bouillon avec des nouilles dans ce bouillon. Et j'ai fini mon voyage avec un bénévolat humanitaire avec les enfants des rues aux Philippines. Et là, les Philippines, c'est un pays magnifique, hein, avec des décors superbes, mais une population qui a un déséquilibre alimentaire assez marquant, puisque moi, je vivais avec les familles locales, qui mangent plutôt de la viande matin, midi et soir. Ouais. À côté de ça, les enfants qui avaient un apport en protéines, notamment, qui était très, très faible. Voilà, donc ça, je suis revenue de ce voyage. J'avais gardé en tête ces histoires de drèche.
T'avais quel âge ?
Ah, c'était il y a 3 ans.
Ok.
Donc j'étais encore toute jeune.
Tu ne veux pas donner ton âge.
Si, j'ai 34 ans.
Et alors attends, j'aimerais juste qu'on revienne avant ton départ. Tu nous dis ça n'avait pas de sens. Qu'est-ce qui n'avait pas de sens dans ton travail ? Enfin, tu étais en cherche de sens.
Ah bah écoute, j'avais pas l'impression de d'être utile.
Tu faisais quoi ?
J'étais chargée de communication.
Parce que t'as quoi comme parcours ?
Eh ben, écoute, j'ai fait des études en communication, j'ai fait un master en com, et après j'ai continué dans des entreprises en fait.
D'accord.
Et dès le début, j'ai quand même su qu'il fallait que je fasse autre chose un jour, et j'avoue que j'ai toujours aimé le recyclage. C'est je trouve ça passionnant.
Ouais.
Bon, dans ma tête, c'était plutôt de recycler des objets à la base. Et là, clairement, c'est arrivé comme un peu une sorte de révélation dans l'alimentation, quoi.
Ouais, ok. Donc, tu reviens de ce voyage et qu'est-ce qui se passe ?
Je reviens de ce voyage et à vrai dire, pendant le voyage, j'ai pas eu une révélation de ce que j'allais faire dans la vie.
Oui.
Mais par contre, je me dis, ouais, il y a vraiment quelque chose à faire dans l'alimentation avec ces drèches, ces nutriments. Moi, je pense à ces petits Philippins qui n'ont pas de protéines ou très peu de protéines dans l'alimentation. Et là, clairement, on en a.
Ah d'accord, parce que j'avais pas compris que t'avais pris conscience des drèches avant de partir en voyage.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Et en fait, en revenant, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire avec? Comment je peux réutiliser un maximum de cette matière dans un aliment qui ait du sens, en fait, dans notre alimentation, qui soit nourrissant et puis simple? Et finalement, les pâtes, en fait, c'est simplement de la farine de céréales et de l'eau. Mmh. Donc, j'ai commencé à faire des essais chez moi pour faire des pâtes, sauf que c'est absolument pas simple du tout de travailler les drèches.
Raconte comment ça s'est fait, ces expériences.
Bah, il faut d'abord savoir que les drèches, c'est rempli de fibres. Alors, c'est super, mais pour la tenue des pâtes, c'est très compliqué. Et le gluten, qui généralement sert de liant dans le blé, tu sais, pour les pâtes, a été détérioré. Donc là, on se retrouve avec une matière hyper compliquée. Déjà, il faut comprendre comment la traiter, puisqu'elle sort chaude et humide des cuves. Mmh. Elle moisit assez rapidement, au bout de quelques heures. Donc, il faut vraiment la traiter rapidement et savoir comment la traiter. Donc, le meilleur moyen de l'utiliser, c'est quand même de la stabiliser, donc de la déshydrater. Donc, j'ai fait des essais chez moi dans mon four.
Donc, tu avais tes drèches, tu les as récupérées, tu les as mis au four pour les déshydrater.
Voilà, c'est ça.
OK.
Une fois déshydratées, bon, là, c'est bien, tu peux les conserver un moment. Et il fallait en faire de la farine, donc les moudre. Alors, j'ai testé avec un moulin à café, absolument inutile. Et puis, j'avais pas de matériaux, j'avais pas de machine chez moi. Je suis vraiment très, très peu équipée. J'ai une toute petite cuisine. Et j'ai une amie qui m'a dit, écoute, teste le Thermomix. On peut faire de la farine avec. J'ai fait OK, super. Moi, j'ai pas 1200 euros à mettre dans une machine. Enfin, voilà, c'est. Sauf qu'en bas de chez moi, il y a une petite cuisine, un petit restaurant, cantine, qui en avait, en fait. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai repéré le Thermomix. J'ai fait salut, est-ce que je peux pas vous emprunter ce Thermomix pour une expérimentation? Et en plus, à l'époque, clairement, c'était pas connu les drèches et personne n'avait encore fait ce type de nouilles là. Donc voilà, j'ai fait ma farine et j'ai fait mes essais chez moi.
Ok, et alors comment se passe ce premier essai? Tu as une farine de drèche, tu la mélanges avec de l'eau, ça marche tout de
voilà,
suite?
Voilà, non, absolument pas, c'était abominable. Alors déjà, j'ai jamais fait de pâtes de ma vie. Je suis d'origine italienne, mais tu parles, on m'a jamais appris à faire des pâtes. Et donc franchement, c'était assez laborieux pour démarrer. Et puis après, tu...
Mais t'as dû t'acheter un lami noir, tu vois, pour faire des pâtes.
J'ai commencé à la base avec un rouleau à pâtisserie, non, même avec une bouteille de bière, tu sais, à l'ancienne. Comme ça, un peu fariné, ça marchait absolument pas. J'ai pris le rouleau à pâtisserie. Enfin, je sais, j'ai fait évoluer mes outils au fur et à mesure, mais alors vraiment en partant de la base. Et j'ai fini par effectivement acheter un petit lami noir à 10 balles, tu sais, un truc manuel. Et en fait, je me suis donné un défi supplémentaire. C'est pour capitaliser sur les protéines végétales. J'ai voulu ajouter une farine de légumineuse.
Ah.
En fait, si tu combines des céréales avec une légumineuse, tu te retrouves avec une chaîne de protéines complète.
C'est le principe de l'alimentation probiotique, il me semble.
Ouais, alors je suis pas sûre de ça, mais je pourrais pas te le confirmer sur le probiotique, mais par contre, très basiquement, en fait, dans beaucoup de cultures, on mange de cette manière-là, sans viande, en associant céréales et légumineuses. Du couscous avec des pois chiches, des lentilles avec du riz, etc. Donc en fait, je me suis inspirée de ces plats internationaux qu'on mange tous et puis que j'ai mangé dans mes voyages également. Voilà, en rajoutant cette légumineuse à la préparation. Je me suis rajouté une complexité puisqu'il n'y a pas de gluten dans les légumineuses, donc globalement, ça avait beaucoup de mal à se tenir.
C'est vrai.
Et puis, j'ai fait divers essais et j'ai fini quand même par acheter une petite machine à pâte électrique pour m'aider là-dedans.
T'en avais marre.
Ouais, voilà.
Et quelle légumineuse tu as choisi?
J'ai fait énormément de tests de légumineuses.
D'accord.
Je suis passée par les légumineuses les plus classiques qu'on connaît, les lentilles, le pois chiche. Et en fait, ça donnait un goût abominable.
Tu utilisais la farine ou...
Ouais, j'utilisais la farine. Après, j'ai testé en les cuisant et en les broyant finement. Il y avait vraiment, j'ai fait énormément de tests.
Parce que instinctivement, j'allais te dire, le pois chiche, tu sais, il a un pouvoir liant, notamment. enfin l'eau qu'il rejette là peut ouais, servir notamment exactement.
Ouais bah non là il a pas il m'a pas aidé du tout là. Non seulement il m'a pas aidé sur le liant mais en plus c'était pas très bon.
D'accord.
Voilà. Mais c'était quoi qu'encore c'était un des moins pires. La lentille ça donnait vraiment un goût très vert.
Ouais.
Et j'ai fini par on a fait des tests aussi en laboratoire parce que le projet était incubé dans un dans une école agroalimentaire.
Alors attends, faut que tu nous racontes comment ouais. tu passes de je fais un test à l'école de
ouais,
chez moi
voilà, mais c'est,
à un labo.
C'est ça. En fait, on a continué ces tests-là parce que toute l'idée, c'était de réussir à faire tenir les nouilles, à utiliser un maximum de drèche dans cette préparation et que ce soit bon en fait.
Bah oui.
Et nutritionnellement intéressant puisque c'était aussi de mes défis. Et avant de passer au labo, je suis quand même allée voir quelques restaurants et fabricants de pâtes italiens pour me faire former. Et j'avoue que je me suis fait claquer la porte au nez parce qu'ils avaient peur qu'on leur pique leur recette.
Ah ouais.
Je suis allée du côté des fabricants plutôt asiatiques puisque j'étais en train de partir justement sur cette partie asiatique.
Déjà
je commence à y réfléchir. Et en fait, je me suis rendu compte que ces pâtes fonctionnaient un peu comme des pâtes soba. En tout cas, dans la fabrication. Les pâtes de soba, ce sont des nouilles japonaises à base de sarrasin. Et c'est pareil, le sarrasin, ça n'a pas de gluten, et c'est hyper compliqué à faire. Donc, je suis allée me faire former chez un français maître soba qui s'était fait former au Japon. Et donc, j'ai commencé à travailler la pâte à la main de cette manière.
D'accord.
Pour comprendre comment ça fonctionnait.
Ok.
Voilà.
Et cette idée de nourriture asiatique, elle vient de cette comparaison avec le soba ou aussi de ton voyage, du coup
aussi et surtout de mes voyages.
Ok.
Ouais.
T'as une appétence particulière pour la nourriture asiatique?
J'ai une appétence particulière pour toutes les nourritures. Je suis très gourmande. Mais c'est vrai que, notamment de ces treks en Himalaya, j'ai mangé vraiment beaucoup de nouilles instantanées. Donc, j'ai eu vraiment cette notion de côté nomade et pratique dans le format. Après, les ramen, je les ai découverts bizarrement aux Philippines avec un ami. En fait, on est allé dans un restaurant japonais. J'avais jamais goûté de ramen et je suis tombée amoureuse des ramen. Ouais. Vraiment, il y a eu un déclic à ce niveau-là. Et en fait, en travaillant le produit, j'ai commencé aussi avec un chef avec qui on a travaillé notamment la première recette de sauce qui va avec.
Attends, là, tu sautes des étapes, là. Ouh là là,
il y
là,
a
là,
beaucoup
là.
De choses à raconter.
Là, on en est encore, t'es chez toi, là.
Mais je suis chez moi, mais en fait, non, le chef, c'est...
C'est celui qui t'aide sur les sobas?
Non, c'en est un autre qui m'a aidé à travailler une sauce, un assaisonnement qui allait avec les pâtes pour justement aider à l'appropriation de ces pâtes.
Ouais.
Puisque ce sont des pâtes nouvelles avec un goût nouveau et voilà c'était et puis finalement de reproduire cette idée de type nouille instantanée avec un assaisonnement dedans. Ce que je voulais dire par là c'est que en fait quand je réfléchissais justement à quel type de pâte comment ça fonctionnait voilà il m'a donné ces idées aussi de soba voilà pour le coup je les connaissais pas les soba.
Donc
c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait encore une multitude de pâtes asiatiques à découvrir.
C'est un ami à toi qui est restaurateur ?
Non, enfin on s'est rencontrés lors d'un covoiturage en fait.
Ok, génial.
Ouais. Ouais. qui adore les nouveaux projets et ça l'a inspiré également.
Génial. Et donc alors comment tu transformes donc ce projet qui est très artisanal au départ avec des tests chez toi à donc ensuite le mettre en laboratoire pour faire des essais à plus grande échelle ?
Oui, alors il faut se dire que Ramen Tes Drèches était le nom du projet en fait.
D'accord.
Donc de transformer des drèches en ramen. Et pour moi, c'était vraiment un défi. Donc clairement, je ne savais pas si j'allais y arriver. Et j'ai fini par trouver une recette à peu près convenable et pas trop mauvaise. Et je l'ai fait goûter lors d'un événement lié à la bière, la Paris Beer Week, en 2018. Et c'était un peu le crash test, c'est savoir si le public, en dehors de ma famille et de mes amis, pouvait apprécier et s'il y avait quelque chose à faire avec. Et donc, en effet, j'ai eu de bons retours avec quand même cette notion en tête de il va falloir améliorer un petit peu tout ça.
Ouais.
Et donc, c'est là où je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner par des professionnels, mais professionnels plutôt en R&D. Donc, recherche et développement. Et c'est là où j'ai intégré en octobre 2018 le laboratoire d'innovation culinaire qui s'appelle le Food In Lab, qui est rattaché à l'école AgroParisTech à Paris.
D'accord, donc tu as postulé, j'imagine
que j'ai passé vraiment... des entretiens, okay. J'ai rempli un dossier et d'ailleurs, Sarah, la responsable du Food In Lab, qui ne me répondait pas, a fini par me répondre au moment où j'étais en Himalaya.
Ah bon?
Remplis-moi le dossier pour demain. J'ai dit non, bah là, je ne peux pas. Je suis désolée. Je dis, j'espère que ça ne va pas me porter préjudice parce que réellement, c'était un peu le... C'est là où je me suis dit, si je suis accompagnée, je démarre un vrai projet.
D'accord.
Je veux vraiment faire une entreprise ou du moins un produit à fabriquer,
okay.
Et à commercialiser.
Mais en tout cas, cette découverte des sobas, ça te permet de concevoir chez toi, puisque tu dis que tu l'as fait goûter et que c'est ensuite, chez toi vraiment un produit qui, toi, quand même, finit par te satisfaire.
Oui, 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 c'est ça. Il fallait qu'il me satisfasse.
Et avec cette sauce, du coup, en complément, toujours, tu le conçois avec la sauce? Parce que donc pour ceux qui ne connaissent pas Ramen Tedrash aujourd'hui, ce que c'est, donc c'est dis-le, explique-le toi, ce sera mieux.
Oui, en fait, on fabrique des pâtes et donc des nouilles sous forme de nids, et on a décliné ces nids de nouilles selon différents formats et différents modes de consommation. Donc dans un premier temps, c'était ce qui était mon inspiration, notamment sous forme de plat complet avec un assaisonnement fait maison et en portions individuelles. Donc dans un sachet, tu as un nid de nouilles de 80 grammes, donc portionné justement pour te remplir le ventre correctement. On a intégré dans ce sachet un assaisonnement fait maison. Donc là, on a trois recettes aujourd'hui. Et avec des produits naturels, sans additifs, sans conservateurs, on essaye de faire ça un peu proprement. Plutôt orienté Asie, parce que c'est ce qui fonctionnait bien avec ces nouilles dans un premier temps. Mais en fait, il se trouve que ces nouilles peuvent fonctionner avec vraiment tout type de recettes. Et donc, dans un autre type de consommation, on a décliné en sachet familial, on appelle le gros paquet, avec quatre nids de nouilles qui sont dans le sachet. Il n'y a pas de sauce là, et chacun peut le cuisiner comme il veut, parce que voilà, il y a des familles, on nous a fait le retour également, donc voilà, t'as le parti un peu nomade, rapide à cuisiner, au boulot, en randonnée, etc. Et puis voilà, les nouilles à cuisiner. Et justement, on l'a aussi décliné en version sans emballage, finalement, en vrac. Déjà, on peut vendre dans les boutiques vrac, et puis travailler justement avec les restaurants.
Super. Voilà. Super. Raison pour laquelle, en effet, on s'est rencontrés. Tu les conseilles du coup avec quelle sauce? Celles qui ne sont pas avec une sauce asiatique, ça marche avec tout?
Ça marche avec tout. Tu peux aller, alors pour ceux qui mangent de la viande, de la carbo, ça fonctionne aussi.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Ah, j'aurais pas imaginé, tu vois.
Ben, on m'a posé la question, donc on est obligé de le tester, et en fait, ça fonctionne. Il y a même la famille de notre maître artisan, agent de production, qui l'a testé en boulette sauce tomate.
Okay.
Donc ça, c'est vraiment pour des choses un petit peu classiques, mais complètement... en tout cas super bonne en ramen, vraiment, du coup, dans un bouillon végétarien, ou alors sauter à la poêle avec des légumes verts, des carottes, le chou kale, c'est superbe avec.
Super.
Tu peux vraiment t'amuser à faire ce que tu veux. Bon, on a fait un blog, et justement, l'idée, c'est de donner un peu d'idées de recettes.
Ouais.
Faut qu'on étoffe. Mais il y a vraiment pas mal de possibilités. Si tu veux, je te donne. Il y a une recette qui est super, justement, qui est vraiment liée à la bière. On avait fait ça avec Babap. En fait, tu fais mijoter des légumes d'automne, potimarron, pané et carottes, etc., dans de la bière brune.
Ah ouais?
Et ça fonctionne hyper bien avec les nouilles.
Trop bien.
Ça, c'est un exemple.
Ok, super. Et on trouve cette recette sur ton blog?
On la retrouve sur le blog, oui.
Génial.
Ouais.
Et donc, tu es prise finalement donc, dans cet incubateur. Qu'est-ce que va t'apporter l'incubateur?
Tout. Non, déjà de plus être seule, de travailler dans un labo partagé avec d'autres entrepreneurs, donc ça c'est génial. Ensuite, un accompagnement scientifique et technique. Je travaille avec les enseignants-chercheurs et les étudiants.
Génial.
Ouais. Qui ont accompagné le projet et qui l'accompagnent encore d'ailleurs. Notamment sur tous les tests qu'on a fait, ils ont complété les tests de légumineuses, de tenue, de stabilisation des drèches, et puis là jusqu'à l'installation de l'atelier.
Parce qu'on ne sait toujours pas c'est quoi les huiles légumineuses à l'intérieur.
Ah, je ne l'ai pas dit. Mais oui, c'est vrai. Ben, c'est de la fève.
Ah, de la fève.
De la fève. Et en fait, c'était la seule qui n'était pas une problématique pour la tenue. En tout cas, elle n'ajoutait pas une problématique supplémentaire. Et qui a un goût neutre avec nos drèches. Donc, c'était parfait.
Donc ça, tu as fini par le découvrir toi, toute seule, d'abord.
Oui.
Et je vois que dans la recette, dans les ingrédients, il y a aussi du psyllium.
Ouais. Alors ça, c'est notre botte secrète, pas vraiment secrète parce qu'on le dit quand même, mais c'est plus la botte secrète des pâtes sans gluten. C'est une plante indienne qui sert plutôt dans la diététique pour ajouter des fibres, mais qui est aussi très connue pour son effet mucilage. Oui. Donc ça va nous coller le tout. Pour le moment, on est obligé de faire ça. Et on en met en très petite quantité, mais on continue encore là, aujourd'hui, à retirer petit à petit ce psyllium.
Pourquoi ça te gêne? Parce qu'il vient de loin?
Bah, parce qu'il vient de loin, oui, clairement.
Okay. Parce que niveau diététique, il me semble que c'est...
C'est un super produit, hein, y a pas de problème. Puis ça nous rajoute des fibres et on est très content qu'il y en ait encore davantage.
Je comprends. Ok, donc t'es accompagné pour ça, donc tu peux tester à grande échelle. Comment ça se passe concrètement?
Alors non, je ne teste pas du tout à grande échelle. Ça, on reste sur des machines de laboratoire.
D'accord.
Donc c'est vraiment très expérimental. Et j'ai quand même eu la chance, avec ces petites machines expérimentales, de produire en petite quantité. Là, j'ai pu tester le marché, donc vendre un petit peu.
Ah oui, parce qu'en même temps, on est quand là?
On est en octobre 2018.
Okay.
Je crée les statuts. Donc là, c'est un peu plus concret.
Mais t'es quand même accompagnée justement sur cette création de statuts, sur ce genre
oui,
de choses.
Oui. J'avais fait un parcours entrepreneurial avec un dispositif. Ça s'appelait la BGE.
Ok.
Ça s'appelle la BGE. Voilà, pour comprendre si cette entreprise pouvait être rentable.
Oui,
en fait,
parce qu'en termes de business plan aussi, il fallait...
Oui, et puis c'était compliqué parce qu'il faut sourcer les ingrédients, tu ne sais pas du tout si ça va être pertinent en fait, en réalité. Et donc accompagné sur la partie entreprise, et puis là avec le Food In Lab, plutôt sur la partie expérimentale. Donc on fait de multiples tests pendant des mois. Et en même temps, je commence à commercialiser pour voir les ressentis clients, les retours et continuer l'amélioration continue en même temps. Tester le marché, voir si c'est quelque chose qui peut plaire.
Comment tu fais pour tester le marché?
Alors pour tester le marché, j'ai trouvé des points de vente. Quelques points de vente, vraiment, ça se compte sur les doigts d'une main. Et essayer de voir si ça se vendait. S'il y avait des récurrences de vente.
T'as choisi quoi comme point de vente?
Ah ben, le premier point de vente était en ligne, pour le coup, et ça s'appelle My Community Beer. C'est notre point de vente historique,
d'accord,
encore maintenant, qui est lié à la communauté de brasseurs amateurs, notamment, et qui a un e-shop. Ensuite, des épiceries de quartier. On a, qui est encore l'un de nos clients... les poireaux de Marguerite.
Ah oui, juste à côté de chez moi. Je ne savais pas que tu les vendais là-bas.
Qui valorise notamment les producteurs d'Île-de-France.
Okay.
Et Cava Bière. Et on a commencé avec un restaurant également.
Ok.
Voilà, donc c'était une manière de tester un petit peu tous les marchés, on va dire, hein, tous ceux qui pourraient être intéressés. Et en parallèle, j'ai fait plein de salons, plein de marchés, des marchés éco-responsables, des marchés de Noël... Ou des salons.
Et attends, là, t'es encore toute seule?
Oui.
Ok. Ah oui, donc ça devait être quand même bien sacré boulot.
Ouais, ça fait beaucoup de boulot, oui. Ouais.
Que du coup, tu fabriquais tout et puis après, t'allais. Enfin, c'est pas toi qui vendais, mais quand même.
Ah bah si. Quand c'était en point de vente, non, c'est pas moi, mais quand c'était dans les salons et les marchés de Noël aussi, oui. C'était moi qui était là. Après, j'ai eu mon copain qui a suivi le projet, qui m'aidait un petit peu.
D'accord.
Voilà, mais il y avait pas mal de choses à faire. C'est pour ça que ça restait assez anecdotique, en fait. La vente dans un premier temps, puisque je pouvais pas produire énormément de par les outils que j'avais en laboratoire et mes uniques mains.
Et alors quels ont été les résultats de ces tests?
Plus ou moins bons. On a en tout cas la démarche plaisait énormément.
Okay.
Le temps qu'on finisse par stabiliser la recette exactement, il y avait des goûts sympathiques, mais voilà, c'était pas encore la grande folie. Et puis au fur et à mesure qu'on améliorait la recette, il y a vraiment eu des gens qui trouvaient ça très bon et qui rachetaient. Et en fait, le retour consommateur me permettait d'améliorer en plus la recette au fur et à mesure.
Ah oui, parce que le fait d'être dans des petits points de vente te permettait d'avoir, même chez les poireaux de Marguerite ou chez les restaurateurs, t'arrivais à avoir, enfin, les restaurateurs, alors, ça me paraît plus évident, mais pour une...
Oui, en fait, Stéphane me faisait les retours des clients et puis, m'a beaucoup insisté aussi sur l'emballage pour que ça parle un peu, un peu plus. Et, d'ailleurs, il y a eu un travail sur l'emballage pour qu'il soit plus éco-responsable.
Et parce que là aujourd'hui, c'est quoi ton emballage ?
C'est du craft. Okay. C'est du craft à l'intérieur. Il y a un film en fibre de cellulose.
D'accord.
Voilà. Et juste le sachet de sauce qui est en craft avec un intérieur avec un film plastique parce que la sauce liquide pour le moment c'est le seul qu'on ait trouvé.
D'accord.
Mais bon, tout est recyclable et l'emballage en lui-même est compostable.
Ok. Ok. Super. Et donc ces tests, ils arrivent à te convaincre quand même d'aller plus loin et de commercialiser réellement ?
Oui, alors tout le long de cette histoire, je me suis quand même mis pas mal de points de contrôle, d'étapes intermédiaires, parce que tout était un peu compliqué. Et donc oui, d'arriver dans le laboratoire, ça c'était déjà une étape. Ensuite, de faire goûter au public plus officiellement dans les points de vente. Et oui, d'avoir des retours quand même globalement positifs qui me permettaient de dire « Ok, je continue le développement et on va en faire quelque chose d'un peu plus conséquent. »
Et le lancement, du coup, à plus grande échelle, arrive quand ?
Eh bien, très récemment, là, en octobre 2020.
Donc, un an après. Non, 2 ans après.
Ouais, quasiment 2 ans. Ça aurait dû être beaucoup plus tôt, mais bien évidemment...
Oui, compliqué, année 2020.
Voilà, tout est dit. Tout est dit, on a dû reculer tout. Donc...
Ok, et comment tu t'es placée sur le marché par rapport à tes concurrents, puisque tu n'es pas la seule à travailler les drèches. Tu l'as pensé ça dès le début ou alors j'ai aucune idée de quand se sont lancées les autres alternatives. On trouve en effet aujourd'hui des cookies ou des biscuits apéritifs.
Ouais, en fait, quand tu me parles de concurrents, dans un premier temps, je pensais que tu me parlais des pâtes, mais en fait, non, moi, je ne les considère pas comme des concurrents.
Ah bah oui, parce que vous ne faites pas les mêmes produits.
Déjà, en fait, il y a d'autres entreprises qui font des pâtes. Ça, c'est une chose, mais néanmoins, les drèches, c'est tellement peu connu que ça sert tout le monde, ça sert tous les acteurs qui transforment les drèches que d'avoir d'autres produits à base de drèche. Donc, moi, je considère pas que ce soit vraiment une concurrence, en tout cas pas directe, tu vois. Et en effet, ça a été une réflexion initiale quand je me suis dit que je voulais en faire une alimentation humaine, enfin en tout cas le transformer dans l'alimentation humaine. Je voulais clairement proposer un plat, quelque chose de nourrissant. Et je m'étais bien évidemment renseignée à l'époque et il y avait vraiment très peu d'acteurs qui transformaient les drèches et on trouvait les barres de céréales aux États-Unis. Hein, c'était vraiment le premier point de contact. Crackers en Nouvelle-Zélande et puis des crackers à Paris. Des crackers apéritifs. Et en fait, globalement, tu vas retrouver beaucoup de snacking apéritif sur la partie drèche, sucré, salé, et ça a complètement du sens avec la bière, en fait, avec l'apéritif. Ouais, et moi, j'ai trouvé ça déjà super. Et je me suis dit, il y a déjà des gens dessus qui font ça très bien, donc je vais les laisser continuer, ça a du sens comme ça. Et moi, je vais continuer sur la partie plutôt plat, nourrissant. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu cette réflexion.
Tu les as rencontrés, ces personnes qui travaillaient dans le milieu de la drèche avant de te lancer ?
Oui, bien sûr. Quand tu découvres les drèches, t'es plein de questions. Hein. T'es complètement plein de questions. Et en fait, oui, j'ai rencontré Nathalie et Marie des Crackers Résurrection, Elsa des Broustics, et après, plus tard, les Lillois d'Happy Drèche. Ça, ils sont venus un peu après. Et voilà, on s'est tous filé des coups de main et des tuyaux. Et ça a été clairement plus facile d'amener les produits à base de drèche lorsqu'ils avaient déjà été... proposé via ces produits apéritifs.
Oui, parce que c'est un peu ma question. Comment tu est-ce qu'il y a une filière qui se structure du coup alors vous êtes pas nombreux à travailler la drèche, mais concrètement comment ça se passe la logistique d'aller récupérer les drèches?
Ouais, là il y a différentes possibilités et ça reste encore vraiment anecdotique et en marge, mais beaucoup, ouais, beaucoup. En tout cas, pas mal se posent la question. Et il y a quelques initiatives qui se lancent sur le sujet. Toutes ne vont pas, n'aboutissent pas parce que c'est quand même un nouveau métier et il y a pas mal d'investissements à faire. Mmh. Et de notre côté, on s'est installé dans un atelier proche des brasseurs, dans l'objectif d'aller récupérer les drèches le plus proche possible, justement.
Est-ce que les brasseurs sont réunis dans un endroit déterminé?
Nous, nos brasseurs, on travaille avec la brasserie de Lettres qui est dans le 19e, Paris 19e, et BAP Paris 11e. Okay. Donc on s'est installé à Romainville, qui est pas tout à fait à côté, mais qui est pas très loin non plus. Mmh. Et en fait, on a un enjeu, c'est de récupérer ces drèches les plus fraîches possibles. Alors fraîches dans le sens en sortie de cuve. Donc une fois, on se coordonne avec les brasseries, on leur demande quand est-ce qu'ils dédrèchent, enfin quand est-ce qu'ils brassent, et puis à quelle heure va se faire le dédrèchage. Et donc nous, on arrive juste avant pour récupérer les drèches toutes chaudes dans nos chariots en inox, et on les ramène à l'atelier pour les traiter directement.
Tu les payes ces drèches?
On ne les paye pas. On a la chance que cette initiative soit bien, très bien reçue, très bien perçue par les brasseurs. Et donc, soit c'est à titre gratuit, soit un euro symbolique, peu importe le volume, histoire de tracer aussi les produits.
Ouais, c'est super. Et donc, c'est ça aussi qui te permet aujourd'hui d'être labellisé. On n'en a pas parlé, mais tu es labellisé bio.
Oui.
C'était important pour toi de récupérer des drèches 100% bio?
C'était en effet un objectif. Déjà de travailler avec des brasseries qui ont cette appétence pour les produits bio et les produits de qualité.
Bien sûr.
C'est vrai que j'assimile beaucoup les produits de qualité à l'agriculture biologique, mais pas que. Il y a aussi une démarche derrière de vouloir pousser justement au maximum des transformations en biologique ou du moins en produits avec de moins de pesticides possible.
On l'a entendu dans l'épisode avec Edouard qui est le fondateur de la brasserie de Lettres que j'ai pu interviewer dans le cadre de Sur le grill décotable. Pour lui, c'est vraiment plus qu'une simple certification bio, c'est d'aller le plus loin possible dans quelque chose qui a du sens, qui est vertueux.
C'est ça, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec lui.
mais du coup, est-ce que potentiellement, dans ton évolution, ça te limite le fait de devoir récupérer que des drèches bio, ou alors, en fait, il y a tellement de drèches que vraiment, on a le temps de voir venir, quoi.
Alors, d'une certaine manière, ça peut limiter parce qu'il y a clairement moins de brasseries labellisées bio que les autres. Et mais cela dit, étant donné les tonnes de drèches qui sont générées par brasserie, on a encore un petit peu le temps de voir venir. Nous, on n'arrive pas encore à engloutir la totalité. On n'est pas loin. On récupère quasiment 2 tonnes 5 par mois.
Ah oui.
Et ils peuvent générer plusieurs tonnes, voire des dizaines de tonnes par mois, hein, les brasseries. Donc là, pour le moment, on a déjà de quoi faire. Mais il y en a quelques-unes déjà pas très loin de chez nous aussi. Et non, franchement, je vois pas trop de limites pour le moment.
Ouais. Ça a été compliqué d'avoir la certification biologique ?
Pas du tout. Je me suis beaucoup stressée avant le contrôle, mais en fait, c'était pas compliqué. Nous, on fait que du bio déjà, donc à ce moment-là...
Oui, parce qu'on en parlait juste avant cet épisode. Comme c'est un produit transformé, je crois que tu as le droit à un pourcentage de produits non bio, mais en l'occurrence, toi, tout est bio.
C'est exactement ça. En fait, c'est le sourcing qui est plus compliqué. Parce que l'idée, c'est d'avoir des produits qui soient bons, de qualité, qui ne soient pas envoyés en avion, etc. Et donc, il faut faire une recherche un peu approfondie de tes matières premières. En plus de... qu'elle soit bonne et qu'elle fonctionne avec, par exemple, la tenue des pâtes, etc. Donc ça, c'est plus en amont que c'est un travail à faire.
Que tu as fait avec l'incubateur ?
La recherche avec, pas forcément avec eux, mais je l'ai fait pendant, en fait, j'en ai profité pendant tout ce processus pour faire des recherches. Et puis après, ben, ce qui est plus compliqué, c'est que t'as besoin d'avoir un petit peu d'argent pour acheter en plus gros volume sur certaines références et tu te retrouves un peu limité par là, mais.
Ouais. Et alors, raconte-nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient ça comme, de manière un peu floue, cette certification bio. Qu'est-ce qui vérifie? Comment ça s'est passé, l'audit?
Alors, une gentille dame est venue dans notre atelier.
D'accord.
Et en fait, elle a vérifié où est-ce qu'on plaçait nos produits, s'ils étaient correctement rangés et s'il n'y avait pas de transfert de matière avec des produits non bio. Elle a vérifié notre processus de fabrication et effectivement tous nos ingrédients. Elle est passée en revue tous nos ingrédients.
Donc toutes vos factures?
Et en effet, toutes nos factures. C'est-à-dire que on devait avoir la certification bio de chaque matière première avec la facture associée.
D'accord.
Et d'ailleurs, après, elle est venue voir dans l'atelier les différentes matières premières et elle regardait bien en détail qu'il y ait bien le label sur chaque emballage.
Ouais.
Et il y a notre ail noir qui n'avait pas de label. Et
vous utilisez de l'ail noir?
Oui, on utilise de l'ail noir dans une de nos sauces.
Ah, j'adore l'ail noir.
Ouais, c'est sympa. Et moi, j'étais persuadée d'avoir commandé en bio. Et en fait, ils faisaient du conventionnel et du non conventionnel. Et en fait, on s'est trompé dans la commande. Du coup, ça nous a permis de pointer du doigt qu'on avait eu un loupé. Donc, celui-là, on l'a mis de côté. On a recommandé du bio et on était. Et ensuite, tout s'est très bien passé. On a eu le label quand même.
Donc, pour toi, c'est positif, la certification bio?
Oui, c'est positif. Oui, complètement. On vérifie que les choses sont faites correctement et qu'on utilise bien ce qu'on dit, ce qu'on utilise, en fait.
Oui, bien sûr. OK. C'est quoi l'avenir pour Amen Tedresh, la suite?
Là, nous, on s'est installé.
Vous êtes combien, là, déjà? Quand est-ce que t'es passé de une à plusieurs?
En fait, les choses sont allées très vite. Enfin, même si ça a traîné, les 6 derniers mois sont passés très vite. On s'est installé dans un atelier de 200 mètres carrés.
Comment t'as trouvé des fonds déjà? Comment tu t'es financé?
Écoute, j'ai tapé aux portes des banquiers qui m'ont dit oui, super projet, mais par contre, en fait, on n'a pas de référentiel, c'est trop innovant.
Ah ouais, c'est trop innovant.
C'est trop innovant. En tout cas, il n'y a pas de référentiel sur lequel se baser, malgré que ce soit quand même des pâtes et de l'alimentaire.
Ce qui peut aider.
Ce qui aurait pu aider, mais non, ça n'a pas été si le cas que ça. Donc ça, du coup, je suis allée voir plutôt vers des banques qui allaient peut-être plus me comprendre, et notamment la NEF, qui est une banque éthique. Et j'ai fait une demande de prêt d'honneur également. Donc ça nous a aidé à faire le levier. Et puis j'ai fait une petite levée de fonds d'amorçage. Je suis allée voir du côté de ceux qui croyaient en nous, la famille, les amis,
t'as fait une love money.
Ouais, la love money. Et puis d'autres entreprises qui étaient liées de près ou de loin à la bière, à l'agriculture, etc. Okay. Donc ça a été un gros, 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 gros coup de pouce.
Donc c'est quoi la suite pour Amen Tedresh?
Alors la suite pour Amen Tedresh, c'est de continuer à transformer un maximum de dresh dans nos nouilles, mais également de produire de nouvelles pâtes. On a d'autres idées de pâtes. Alors on a quand même démarré avec les pâtes les plus compliquées à faire. Les nouilles, c'est nouilles hyper fines. Et on a des envies de coquillettes, de crozets.
Mais plus avec ces farines sans. Enfin, avec du coup, tu ajouterais de la farine avec gluten. Mais là, il y a un peu de gluten.
Ouais, on a de la farine de blé ancien T80, qui nous aide clairement. Si, en fait, on se pose la question. Je me demandais si on allait continuer à faire juste des produits avec des dresh. Et éliminer d'autres ingrédients, mais en fait on trouve ça toujours intéressant de rajouter une légumineuse pour garantir vraiment un produit nutritif,
ouais.
Et réintroduire un petit peu les légumineuses d'une autre manière,
ouais, c'est clair.
Dans l'alimentation, qui ont été un petit peu oubliées mais qui reviennent complètement à la charge, ça c'est génial. Donc d'autres pâtes, et puis depuis janvier on commercialise notre farine de dresh, puisque c'est la base de la fabrication de nos pâtes, et c'est une superbe farine. C'est une farine intégrale qui est très fine, une petite odeur de céréales toastées, et que tu peux intégrer, donc qui est qui a plus de 16 grammes de protéines, 24 grammes de fibres à minima, et que tu peux incorporer dans les pâtisseries, boulangeries, pâte à pain, pâte à pizza, des crêpes, des gâteaux, etc. Plutôt génial. Comme une farine spéciale, tu entre 30% et 50%. Mais ça te rajoute un taux de fibres incroyable à ton alimentation, et puis un petit goût sympathique.
Et donc là, on peut déjà la trouver, cette farine ?
Ouais, on peut déjà la trouver.
Dans les magasins bio, j'imagine ?
Ouais, on peut la trouver dans les magasins bio et nos autres petites boutiques qui ne sont, sont pas forcément bio, mais ouais, on commence tout doucement à les...
Et que à Paris ou aussi hors de Paris ?
Alors, on a quelques points de vente en dehors de Paris. Je ne sais pas si on a encore expédié la farine en dehors de Paris. Si, je crois que ça commence
Superbe.
À sortir un peu.
Ok.
Voilà.
Eh ben génial, bah tout le meilleur pour Amène tes drèches. Là, du coup, c'est un peu une année cruciale puisque j'imagine.
Oui.
Voilà,
oui.
Vous êtes lancé en 2020, 2021, c'est un peu l'année d'épreuve.
C'est complètement ça. C'est l'année où on bosse. Pas déjà que je bossais beaucoup, mais alors ouais. Là, ça va être encore pire.
Tu découvres la vie d'entre. Enfin, tu la découvres depuis quelques temps.
Tu la découvres chaque jour, en fait. Tu te crois que t'as déjà atteint un haut niveau de. De compréhension de l'entrepreneuriat, mais non, t'en apprends tous les jours.
Ouais. Et ça, tu le vis bien, parce que moi, évidemment, je me suis beaucoup posé la question, mais je pense que tu te la poses encore plus quand t'as été salarié avant, ce qui n'a pas été mon cas, et que tu passes un peu d'un confort de salariat, où à l'époque, je pense que tu le vivais plus du tout comme un confort, parce que voilà, tu voulais plus travailler dans l'endroit où tu travaillais. Mais l'entrepreneuriat a quand même quelque chose d'inconfortable. Ça, c'est quelque chose que tu vis bien.
Oui, ça dépend des fois. C'est-à-dire que, effectivement, je me rappelle de ce confort de temps en temps en me disant que c'était quand même bien facile
d'avoir des vacances.
Et en fait, quand tu sors de, mais pour le coup, j'ai fait un burn-out en réalité de ce travail. Mais j'ai beaucoup travaillé, mais en fait, j'ai travaillé quand même bien moins que ce que je travaille aujourd'hui, et c'est complètement différent. Et en fait, quand tu pars de du travail, tu rentres chez toi, ben normalement, tu travailles plus. En tout cas, t'as peut-être ton esprit qui est à peu près tranquille, sauf justement en cas de burn-out. Mais en tout cas, la plupart du temps, t'es un peu libéré. C'est pas ton entreprise, t'as pas trop de, c'est moins important. Alors que là, ben quand tu rentres chez toi, t'y penses toujours et ça reste la charge mentale, ouais. Par contre, tu sais pourquoi tu le fais. Et c'était un peu des points de contrôle que je faisais aussi, c'était de vérifier que ce soit toujours pourquoi je me suis lancée là-dedans, si c'était toujours en accord avec mes valeurs et si j'allais toujours dans la bonne direction. Et finalement, bah il y avait quand même cet aspect liberté, vouloir pouvoir faire ce que je voulais ou du moins créer plus librement et avoir un peu moins de contraintes. Cela dit, voilà, il y a quand même, faut pas oublier que ça reste assez sérieux en fait, et il y a des salariés maintenant, et notamment d'ailleurs, ouais, voilà, c'est ça, et puis t'as pas envie de faire un produit, t'as pas envie de faire n'importe quoi en fait. Clairement, le produit, tu veux qu'il plaise au consommateur et tu veux qu'il continue à avoir du sens et qu'il soit créé pour ça, quoi.
Ouais, ouais. Je vais te poser les deux dernières questions que je pose habituellement à mes invités. La première, c'est: est-ce que tu te considères comme une militante de l'assiette ? Est-ce que ce mot militant, il te parle ?
Il me parle, mais il me parlera d'autant plus si les produits arrivent à être vraiment accessibles au plus grand nombre.
Donc le militantisme, c'est aussi une bonne alimentation pour tous.
Ouais, exactement.
Mais ça m'amène du coup à ma deuxième question. C'est quoi pour toi la mesure à mettre en avant si demain le gouvernement venait te voir en disant on a besoin de vos conseils? C'est quoi la mesure de l'alimentation durable que tu mettrais en avant pour aider la transition?
La mesure. peut-être à mon tête. Très simplement, puisque ça a fait partie un peu de notre domaine, tout ce qui est anti-gaspillage, le gaspillage au minimum, voire la réutilisation des déchets. Il y a des entreprises qui font des super choses avec ça. Je ne sais pas si tu connais les confitures rebelles, par exemple,
ouais.
Qui en plus ont un, C'est une entreprise d'insertion sociale en plus, insertion professionnelle. Donc il y a vraiment une démarche globale en fait, à la fois de récupérer les invendus de fruits, de légumes, d'en faire des confitures et de le faire faire par des personnes éloignées de l'emploi. Mmh. Donc ça pour moi c'est vraiment l'aboutissement de.
Ouais, donc valoriser ces démarches et ouais. et peut-être avoir une politique de pollueur-payeur ou non.
C'est un peu ce qu'on fait en France. Est-ce que c'est
Est-ce que quand on fait pas le tri sélectif, on est sanctionné? Je suis pas
sûre. Non, c'est vrai, non, pas encore. Je suis pas trop sur le côté payeur, mais plus sensibilisation et
positif.
Et voilà, positif et montrer l'exemple.
Ok, super. Merci beaucoup, Sabrina. Merci d'avoir écouté sur le grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5/5. De vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille !